Vous écoutez Carnet d'expérience, un balado produit par Vertical, centre d'artistes. Les œuvres abordées dans cette deuxième saison sont diffusées dans le cadre de Troubles et moi et système, la programmation thématique annuelle 2021 de Vertical. Composée cette année en collaboration avec l'artiste Frédéric Lavoie, la série Carnet d'expérience et aussi l'occasion de poser un regard additionnel et singulier sur les œuvres, afin de rendre plus perceptibles leur signification et pour en alimenter les interprétations. Exploration spéculative est un projet des artistes Alexandre Bérubé, Guillaume Pascal et Frédéric Laliberté. Il est réalisé à l'initiative du commissaire Eric Matin pour le laboratoire mobile de Vertical, le camion appelé Villa, véhicule d'art actuel et numérique. Débuté au printemps 2020, le processus de collaboration est marqué par les incertitudes et l'errance de ce temps trouble. La distance structure toute communication et impose au collectif que chacun de ses gestes soit situé, à défaut de pouvoir être localisé. Les formes artistiques engendrées sont complexes et stratifiées. Exploration spéculative commence par une correspondance vidéo entre un des membres du collectif parti sur le fleuve Saint-Laurent à bord d'un voilier et le groupe resté à explorer l'île Jésus. Puis, le collectif s'installe sur un terrain vague où cohabite temporairement la virtualité des édifices à venir et l'actualité d'un écosystème qui émerge des ruines d'un futur antérieur. Un récit de science-fiction poétique et spéculé et une panoplie d'objets est bâti, puis activé sur le terrain. La seconde partie du projet, qui s'intitule « L'aval d'un futur », est un programme d'exposition et d'activité in situ qui s'accompagne d'une publication augmentée.
Autant qu'on pouvait s'intéresser au récit des planificateurs, des promoteurs immobiliers en place, parce qu'il y a tout ce récit-là qui est lié à la promotion du secteur. Bien, autant on cherchait à faire le récit de quelle manière est-ce qu'on mène notre processus de recherche, c'est quoi nos... T'sais. Donc, il y a eu, par exemple, rapidement, il y a eu cette unité urbaine-là qui se déplace à vélo, qui est née... Frédéric était la navigatrice avec le bateau Horta, donc il y avait ces deux pôles-là entre une unité urbaine puis une autre unité sur l'eau, on pourrait dire, puis ces deux unités-là sont en correspondance, donc ça s'inscrit dans une sorte de fiction d'eau et de terre, je pourrais dire, puis avec des notions comme celle d'île, de territoire, d'environnement construit, etc., d'exploration, d'expédition.
Chère correspondante sur l'eau, voici une sixième lettre. Elle arrive à rebours. On me demande si c'est un peu comme pour la saga de la guerre des étoiles. Je te l'écris sur le compost de la première fois, du temps où elle était la troisième. Du temps où, avec l'unité urbaine, on suédait Fellini, dans les vestiges d'un futur à Laval, entre les avenues Ampère et Léo Lacombe.
Chère unité urbaine, voici une lettre qui provient du passé. Nous sommes les protagonistes d'un récit décalé dans le temps et dans l'espace. Faites comme si elle n'était pas là, dans les coulisses. Elle est à la fois sur l'eau et à côté de l'eau. Elle est auprès d'une partie de vous en train de vous écrire une lettre, au loin, dédoublée. Nos initiatives sont éparses. Nous nous adressons à des véhicules absents, empruntons des trajectoires planifiées, mises en scène, rejouées.
Donc, on est moi-même, Frédéric Laliberté, Guillaume Pascal et Alexandre Bérubé. Nous sommes bien contents de vous voir aujourd'hui ici à Future Park. Et on tenait d'abord à souligner que Future Park est situé en territoire autochtone non cédé. Mmh. L'été dernier, aujourd'hui et la semaine prochaine, avec nos acolytes humains et non humains, nous infiltrons, activons, occupons, habitons et racontons le présent épais du secteur de la station intermodale de la Concorde. Et c'est dans une démarche de bonne relation et dans le respect des peuples qui étaient ici avant nous que notre projet questionne les temporalités croisées que l'on retrouve sur le morceau de banlieue, habitat circonscrit, territoire lavallois, que nous appellerons aujourd'hui Future Park.
J'ai l'impression qu'on... on se trouve à un moment, puis on observe, puis on réfléchit à ce qui se passe en ce moment, mais... On s'est même posé la question, l'été, il y avait une sorte de... Quand on a vu les premiers camions apparaître vers l'automne dernier, on se dit « Ah, mais qu'est-ce que ça signifie pour notre projet que les camions soient arrivés? Est-ce que ça veut dire que notre projet est terminé en quelque sorte et on peut passer à une autre forme de logique, tu sais, une logique plus de présentation de nos recherches où on continue, tu sais, d'investiguer, on continue de penser ce qui se passe sur ce territoire-là. Puis c'est, je dirais que même aujourd'hui, c'est pas si clair que ça. T'sais, même se projeter, par exemple, dans 2 ou 3 ans, quand les tours vont être construites ici, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'observer des disparités entre ce qui était promis aux habitants à venir d'ici puis ce qui s'y passe réellement? T'sais, donc, ça, c'est de la spéculation, mais j'ai l'impression que c'est un projet qui se clôt pas si facilement que ça. On a tous grandi en banlieue, que ce soit en banlieue parisienne, en rive sud de Québec ou de la ville de Québec. Ben, tu sais, on retrouve ici une banlieue qui est en transformation. On a un certain imaginaire de la banlieue aussi. On a été conditionné à la vie de banlieue, mais on l'a tout vécu à notre manière. Puis je pense que d'être ici à Laval, comme dans la banlieue qu'on pourrait dire par excellence, tu sais, ou quasiment mythique dans la province, l'archétype de la banlieue, tu sais, dans la province, ben, de se dire, OK, ben, qu'est-ce que la banlieue, qu'est-ce qu'elle devient, comment est-ce qu'elle a été pensée dans l'après-guerre, puis de dire comment est-ce qu'on s'y est inscrit dans notre enfance. On a fait... Il y a des souvenirs qui ont émané du fait d'être ici, de notre manière d'être en lien avec l'environnement, avec les insectes, les plantes, etc.
Méthodologiquement, c'est un peu ce qui avait donné un peu le titre initial de l'expédition spéculative. C'est un peu l'idée de l'expédition, justement, comme à l'époque du 19e siècle, par exemple, ces chercheurs qui partaient en gagne, chacun avec sa spécialité. Il y avait un botaniste, un biologiste, en tout cas dans l'imaginaire un peu Jules Verne. À la Jules Verne, on est parti un peu comme ça, c'est de se dire, OK, on a nos pratiques, etc., mais on va partir en gagne, en expédition, puis de là, on va voir c'est quoi qui émerge, hein, tout en commun, puis en ça, c'est peut-être plus quelque chose de choral, finalement, que de quelque chose de collectif, tu sais, c'est comment les choses résonnent les unes avec les autres, font accord, c'est pas spécialement, on est sur la même partition, mais on joue pas les mêmes notes, tu sais, puis c'est comme ça, je pense, qu'on est avancé, tu sais. Ben, je te dirais, c'est pas tant scientifique que science-fiction, justement, parce que c'est vrai que la fiction est vraiment présente, puis on se targue pas d'être des urbanistes non plus. C'est sûr que par la bande, il y en a une approche critique, tu sais, mais on n'a pas tenu. Ça, c'est des conversations qu'on a beaucoup eues, tu sais, c'est quoi la relation? Est-ce qu'on décide peut-être d'être dans cette binarité-là, d'être dans l'opposition systématique, ou est-ce qu'on essaye plutôt de travailler? Ben là, on sortait aussi pas mal toutes des lectures d'Haraway, etc., tu sais, vivre avec le trou, penser avec le tout, où justement, l'idée. plus l'idée justement du jeu de ficelle. C'est ok, c'est quoi les agents qui sont sur place, c'est quoi ce qu'ils jouent, puis c'est d'essayer petit à petit, ouais, peut-être objectivement, même si ça engage en permanence notre subjectivité, mais en tout cas d'essayer d'identifier des agents, puis peut-être que la part de subjectivité justement elle intervient au moment où on les présente, puis où on les met en réseau, parce que ça, je veux dire, il viendra un moment, bah, d'où l'idée de la publication sous forme d'affiches aussi ou de cartes. C'est l'idée de positionner ces agents-là, mais je veux dire, c'est sûr qu'à un moment donné, il faudra qu'on leur donne une certaine fixité, même si on essaie de penser ça le plus fluctuant possible.
Nos vécus vont prendre une grande place dans l'histoire qu'on va essayer de faire naître sur le site ici. Puis après, est-ce que cette approche-là va évacuer la dimension critique? Je ne penserais pas complètement. Je pense que c'est sûr qu'on ne se positionne pas comme des militants, militantes, mais malgré tout, il y a un aspect de « mais qu'est-ce que c'est qui est en train de se passer ici puis qui se passe ailleurs? »
Donc là, j'ai retrouvé des vieilles images d'archives qui donnent une idée un peu du style d'architecture. On va se les faire tourner par là.
On va mieux faire tourner, on
voit. Ouais, voilà, c'est ça. Faisons-les tourner. Du type d'architecture à l'œuvre, donc des bâtiments verticaux, comme on commence à retrouver aujourd'hui au Québec. Moi, d'ailleurs, c'est assez remarquable parce que j'ai l'impression d'être une espèce de messager du futur d'une certaine manière. Moi, ce que j'ai adoré au Québec en arrivant, c'était justement une forme d'horizontalité de la ville, des petites maisons, puis tout ça. Puis je commençais à voir pousser des immeubles plus verticaux avec des 5, des 6, des 7 étages. Et j'ai dit, mon Dieu, j'ai fui comme la région parisienne pour plus jamais avoir ce genre de bâtiment. Puis comme 12 ans après, ça commence à construire très vertical aussi dans les banlieues périphériques. Et c'est vrai que pour moi, ces bâtiments-là que j'ai habités, occupés, joués dans les terrains vagues, j'ai des photos de terrains vagues, et les centres d'achat, mon Dieu, les centres d'achat dans lesquels on passait des heures, parce qu'il n'y avait que ça à faire. Dans le fond, on était dans une espèce d'environnement confiné. C'était déjà un confinement, je dirais, avant l'heure, d'une certaine manière, dans lesquels, qui a quelque part convoqué aussi tout un imaginaire de la science-fiction. Moi, j'avais tendance à voir ça petit quand je déambulais, je me souviens, à 7-8 ans, j'déambulais dans ces centres d'achat-là, puis je voyais ça comme un grand vaisseau spatial, dans le fond, dans lequel on était pogné, puis il n'y avait aucun contact avec la nature directe. C'était quelque chose de très abstrait pour nous autres, l'idée d'une forêt où tout était aseptisé, organisé. Et cette fameuse ville de Cergy-Pontoise, c'était assez intéressant parce que dans le fond, il n'y avait pas de trottoir. Puis récemment, on m'a dit « Ah, mais Laval, c'est une ville sans trottoir. » J'ai dit « Bah voilà qui me parle, tiens, voyons donc. » J'ai grandi complètement là-dedans, à base de petits tunnels, de petites allées, de contre-allées qui n'avaient rien de chemin, je dirais, naturel n'est pas le bon mot, mais en tout cas qui était vraiment comme quelque chose de confiné, presque extérieur à l'environnement. Donc c'est pas ça, moi, l'imaginaire que j'ai de la banlieue, en fait, de ces villes nouvelles bâties de toutes pièces.
Mais les clôtures sont faites pour sauter par-dessus quand même.
Oui, mais c'est ça, manifestement. J'aimerais ça
Non, mais d'abord, ça a bougé aussi, elles peuvent bouger. C'est une autre une action possible de la clôture. Celle-ci a bougé. Celle-ci s'est posée. Celle-ci est apparue aussi.
Elle est apparue. Elle va peut-être disparaître. Elle va sans doute disparaître. À un moment donné, elle ne servira plus à rien.
Ouais.
Mais toi, Maude, dans ton projet,
ouais.
Sphinx, mon contour, la clôture a joué quand même un rôle, je pense.
Oui, dans notre but de faire le tour puis de suivre un parcours et tout, bien, on s'est frappé le nez sur des clôtures, mais des clôtures aussi symboliques, des terrains privés, je l'ai un peu parlé tantôt. Évidemment, on les sautait là, parce qu'on était attachés à notre idée, mais c'était pas toujours possible. Puis il y a aussi des clôtures naturelles. Est-ce qu'on les respecte plus parce qu'elles sont naturelles? Mais oui, moi, la clôture, ça me ramène comme à une histoire aussi, peut-être, souvent que les écoféministes vont utiliser pour aussi parler des débuts du capitalisme. C'est intéressant parce que les enclosures en Angleterre, là, la loi qui a été mise, OK, on met des clôtures maintenant sur les terrains qu'on cultive, on les clôture, puis maintenant, les profits de ces cultures-là vont être à une seule personne, vont revenir à une seule personne. Donc, l'intérêt de la culture... La clôture s'assure qu'une seule personne va faire le profit de ces cultures-là, de ce terrain-là. Mais avant ça, puis c'est super intéressant, il y avait en Angleterre ce qu'on nommait des « open fields » ou des « common lands » ou des « common waste ». C'est encore plus intéressant. Peut-être des terrains vagues, on pourrait dire, mais en tout cas, c'était l'usage de ces terrains-là. En fait, tout le monde pouvait y aller. On pouvait errer sur ces terrains-là, on pouvait vaquer. On pouvait aussi aller comme combler certains besoins chercher du bois mort, chercher des herbes médicinales, étendre ses tissus parce qu'il y avait de l'espace après qu'on les éteint au soleil, aller faire paître ses bêtes, aller pêcher dans les petits ruisseaux, les marais. Donc cette idée-là de clôture qui vient comme empêcher ou faire disparaître la notion de terrain commun. Moi, je pense que la clôture, en tout cas, ce que je vois qui est peut-être le plus triste, c'est que ça vient peut-être défier cette idée-là du terrain commun ou empêcher parfois cette idée de faire communauté, d'utiliser un terrain, de vaquer sur un terrain, d'errer, de se permettre d'errer, de ne pas avoir quelque chose de précis à faire, tu sais, mais juste d'errer ensemble. Il y a comme un être ensemble qui est... Fait que je suis revenue aux enclosures, mais ça me semble intéressant parce que l'idée de la clôture, puis vous l'avez défiée. Puis là, maintenant, dans un contexte comme ça, où on se crée des habitations, on veut habiter, clôturer.
Cette haie me fait penser au film de Norman McLaren, Les voisins.
Ah, oui.
Il s'agit de deux voisins qui s'installent l'un à côté de l'autre sur leur terrain pour lire le journal. Et puis, il y a une fleur qui pousse, mais exactement à la limite entre les deux terrains. Et là, ça va déclencher une guerre de possession. À qui appartient la fleur? Et là, les clôtures montent et ça finit par la guerre,
mm-hmm.
carrément. Mais oui, ce besoin de distinction très claire pour ce qui est de la propriété, la proximité et la distance à la fois, comme un désir et un refus de l'autre.
Ouais.
C'était un motif que j'avais examiné en rapport avec la forme palindromique, justement, mm-hmm. où il y a retour du même, en fait, une sorte de désir de retour du même, donc de conformité, hein, d'une certaine façon, et à la fois une sorte de trouble interne, de scission centrale qui fait en sorte qu'il y a, une tension... envers l'autre, parce qu'il y aurait une sorte de conflit refoulé en relation avec Montréal.
Les disparités que le terrain vague nous permettait, c'était comme de se trouver à un moment où on observe ce qui s'y déroule, puis ça nous permet comme, OK, ben voilà ce qui est anticipé, ce qui est projeté, autant au niveau des bâtiments que des modes de vie. Des futurs occupants de ces condos-là à venir. Puis voilà ce qui a lieu actuellement. T'sais, actuellement, c'est pas qu'il n'y a rien qui s'y passe, il y a une foule de choses qui s'y passent. Il y avait des plantes, il y avait des lacs éphémères qui se généraient après une grande pluie. Il y avait un rapport aux insectes, entre autres aux guêpes, tu sais, qui étaient très présents. Donc, tu sais, il y avait cet aspect-là, finalement, qu'on se trouvait dans une position où, en plus d'être observateur, observatrice de ces lieux-là, bien, on se trouvait à être dans une position où, je dirais que notre position nous faisait côtoyer un écosystème, finalement, vivant, en transformation.
Il y avait tout un écosystème, effectivement, qui avait poussé. Puis là, il y avait encore du dallage d'une autre époque. Ça fait que cette ruine-là, en plus, c'était intéressant. Je ne savais pas si c'était la ruine du futur, c'est-à-dire la ruine d'un projet qui va anyway pas arriver, parce que c'était parti pour que ça paraît être un chantier abandonné plus. Mais on ne savait pas non plus si c'était la ruine de quelque chose qui était advenu avant. Donc c'était à cheval. Moi, j'aime bien la métaphore, justement, de l'erreur 404. C'était un peu pareil. C'est-à-dire, tu ne sais pas si le contenu il a été effacé ou si c'est le contenu qui n'a pas été encore chargé. C'est un espèce d'espace interstitiel ou finalement, en suspension, où tu ne sais pas si tu es dans le futur, tu es dans le passé, tu es dans le présent. C'est juste, c'est là, tu sais, puis les choses peuvent arriver. C'est de la pure contingence. Alors ça, pour moi, c'était une belle expression de ce qu'est la virtualité, c'est-à-dire quelque chose qui en attente d'actualisation. Puis c'est quoi qui allait actualiser ce terrain vague? Est-ce que c'était les pelleteuses? Est-ce que c'était les guêpes? Est-ce que c'était la pluie qui tombait puis qui faisait que du jour au lendemain, on se retrouvait avec une mare où il y avait toutes sortes d'insectes, etc. Est-ce que c'était nous, en venant activer nos affaires, en arrivant avec nos caméras ou nos petites expériences diverses et variées?
Merci d'être là à Future Park. C'est notre dernière journée ici. Alors, on est fatigué et nostalgique. Ça nous décrit bien. Fait que, c'est ça, ici, on est à côté d'un chantier de construction. Puis on en a parlé avec Alexandre puis avec Guillaume. On a vu sur ce chantier-là dès le début, puis encore aujourd'hui, des amoncellements de matériaux neufs dans lesquels, moi, je vois une intention de survivre ultérieurement. Donc, pour moi, si tu construis un édifice, dans le fond, c'est que tu as l'intention d'habiter dans cet édifice-là plus loin que l'immédiat, plus tard que l'immédiat. Puis je vois dans le fait de faire un pain un peu le même acte de planification au sens où le pain, il sera pas prêt tout de suite. Fait que si tu es en situation d'urgence, il faut que tu manges maintenant, c'est pas la bonne nourriture à se mettre sous la dent parce que tu peux justement pas te la mettre sous la dent avant un bon 10-12 heures de niaisage. Fait que, donc, moi, en réfléchissant à ça, je me suis dit, c'est quoi? C'est pas de la survie, c'est de la quelque chose comme une genre de post-survie.
La question, c'est la pâte qui lève, la question de la croûte, etc. Mais ça, dans le projet, je pense que la croûte est apparue. Tu sais, s'il y a quelque chose de polysémique avec ça, tu sais, tu parles du terrain accidenté. Mais tu sais, c'est aussi justement, tu sais, après. Et la croûte, c'est aussi justement, c'est des événements, c'est la contingence de ces événements-là, c'est le pain qui gonfle, mais c'est qu'on le pensait en lien aussi, voire pratiquement en opposition avec le plan. Le plan comme tel, c'est autant le plan qui est lisse que le plan planifié. Donc, c'est les événements seraient lisses, seraient prémédités, seraient prévus, alors que dans la métaphore de la croûte, il y a quelque chose de l'imprévisible, de l'accidenté, de l'accidentel. Puis, je sais pas, ça fait penser tout le long de la discussion, il y a question des clôtures, des déchets, etc. Puis c'est sûr que pour moi, il y a quelque chose, peut-être pas le propre des terrains clôturés, mais il y a quelque chose à l'intérieur des clôtures, ce qui se passe, c'est peut-être le propre des terrains plats, le propre ici. Par exemple, c'est dans le secteur intermodal de la Concorde. Bien, ils ont divisé avec des clôtures par différents moments. En premier, c'était le parc de l'autre côté de la rue. Dans le jargon, par exemple, des planificateurs vont parler de grands ensembles. Donc, ils vont clôturer le parc en premier parce qu'il y a un plan, il y a un dessin qui a été fait de construire un parc à l'intérieur de ces clôtures-là. Ensuite, ici, c'est le deuxième volet, deuxième phase du district Concorde. Donc, ils clôturent le territoire qui a été planifié.
Tant qu'il n'y aura pas des tours, là, moi, j'ai l'impression que tout peut arriver parce qu'il y a eu d'autres moments où est-ce qu'on a cru qu'ils reprenaient le chantier. Puis là, ils déplaçaient des montagnes de gravier, puis ils reconfiguraient des affaires, puis ils mettaient leurs containers de l'autre côté. Fait que c'est comme si, à plusieurs moments, on a cru que c'était fini, tu sais, puis que c'était justement cette espèce de interstice-là, on n'y aurait plus accès. Là, on pourrait croire aujourd'hui à nouveau que c'est fini, puis que quand on va faire nos journées de discussion en octobre, il va y avoir des débuts de tours qui vont être en train de s'échafauder, puis ça va peut-être être le cas, mais peut-être aussi qu'ils vont encore se faire distraire par un autre projet, puis aller faire d'autres choses, t'sais. Fait que c'est comme... Puis aussi, c'est le fait qu'on n'a pas... On n'a vraiment pas d'informations autres que ce qu'on voit arriver quand on arrive ici, puis on fait « Ah, ils ont fait ça! »
Moi, je le vois plus comme « Ok, ben... » C'est ça qui est là, c'est quoi qu'on peut créer avec ça? De toute façon, ça va arriver anyway, donc est-ce qu'on continue comme à juste le dénoncer ou est-ce qu'on trouve des stratégies comme pour composer avec, puis pour développer des nouveaux imaginaires aussi, parce que je pense que c'est, pour ma part, cruellement ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de s'inventer des nouveaux mythes. T'sais, justement, des édifices comme ça, ils existent à cause de mythologies qui ont déjà existé pendant trop longtemps. T'sais. Donc c'est quoi les nouveaux mythes qu'on peut construire à partir de ça qui appartiennent pas à cet imaginaire-là, parce que quand c'est marqué Future Park, c'est Future Park des années 70, là. C'est pas Future Park de 2022-2023, donc nous, cette relation qu'on a avec ce terrain-là, qui est une fiction, qui est un imaginaire, qui est purement spéculatif, il a au moins, peut-être, s'il a une vertu, c'est au moins d'essayer de faire l'effort d'avoir un imaginaire contemporain.
Le balado Carnet d'expérience est une production de Vertical, centre d'artistes. Merci d'avoir été à l'écoute. Inscrivez-vous à l'infolettre de Vertical pour ne rien manquer des activités à venir. Vertical remercie pour leur précieuse collaboration les artistes Bianca Leva, Michel Lacombe, Jacinthe Loranger, Victoria Stanton et le collectif Alexandre Bérubé, Frédéric La Liberté et Guillaume Pascal. Également, merci à l'équipe de réalisation. Frédéric Lavoie à la direction artistique, Alexis Bellavance à la direction technique et moi-même, Emma-Kate Guimond à la narration. L'extrait musical est une composition de Oren Leufer intitulée « No Reason Why ». L'équipe régulière de Vertical est composée de Charlotte Panaccio-Letendre à la direction générale et artistique, Laurence Hague à la coordination administrative et Gabrielle Desgagnés-Duclos à la coordination des communications et de la programmation. Les œuvres abordées dans ce balado sont diffusées dans le cadre de Troubles et moi et système, la programmation thématique annuelle 2021 de Vertical. Ce projet est réalisé grâce au programme d'aide aux initiatives de partenariat, dans le cadre de l'entente entre la Ville de Laval et le ministère de la Culture et des Communications. Vertical est soutenu au fonctionnement par Ville de Laval et le Conseil des arts et des lettres du Québec.